La Sainte Écriture, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, en quelle langue a-t-elle été écrite?
Eh bien, la Sainte Écriture a été écrite dans des langues qui ne sont pas les langues actuelles, le français, l'italien, l'allemand, l'anglais, etc., qui sont des langues qui sont très évoluées par rapport aux racines qui les ont formées, c'est-à-dire au grec, au latin et à diverses langues nordiques. La Sainte Écriture a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu. Et ce qu'il y a de très remarquable, c'est que l'hébreu est la langue par laquelle on rejoint les temps les plus anciens. Par exemple, Champollion, quand il a voulu étudier les textes coptes et égyptiens, il a fallu qu'il passe par l'hébreu. L'hébreu vient de l'ancienne Chaldée. C'était la langue d'Abraham. Il n'était pas écrit, évidemment, comme dans les caractères actuels, mais c'était quand même l'hébreu parlé d'Abraham. Et pendant donc les 2000 ans de l'Ancien Testament, il est resté stable. Ça a été la langue dans laquelle ont parlé Moïse et les prophètes, dans laquelle ils se sont exprimés.
Alors, le texte écrit.
Alors, le texte écrit de l'hébreu a été vénéré tout au cours des siècles dans la race juive parce que c'était leur livre de famille, c'était leur livre de race. Et déjà, avant Moïse, il y avait des scribes en Israël. On le voit très bien quand ils étaient en Égypte, le pharaon rassembla les scribes d'Israël. Donc ils avaient une tradition écrite avant Moïse. Et dans cette tradition écrite, ils avaient le souvenir des patriarches. Si bien que par les patriarches, on remonte jusqu'à Noé et de Noé jusqu'à Adam, étant donné la chronologie biblique.
Les patriarches, c'est la descendance
C'est Adam.
de Seth
C'est la descendance d'Adam par Seth,
par son fils Seth.
son fils Seth, son troisième fils. Puisque le premier a été tué, Abel a été tué par Caïn, le second, Caïn, s'est enfui dans les régions de l'oubli, probablement vers l'Extrême-Orient, et les fils de Caïn, on en a une petite généalogie, et ensuite on a Seth avec sa généalogie. Et l'Écriture dit, Adam engendra aussi beaucoup d'autres fils et d'autres filles, mais dont nous n'avons pas les noms. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une tradition à la fois linguistique et chronologique, avec des noms propres qui marquent toute la lignée d'Adam jusqu'à Moïse. Ça, on l'a. Alors, l'hébreu est une langue si remarquable qu'aujourd'hui encore, si Abraham revenait en Israël, il pourrait lire le journal et il comprendrait la plupart des mots, parce que les racines n'ont pas bougé. En Israël, on avait le culte du texte. Toute la religion d'Israël était rattachée au texte, qui était lu le sabbat, le jour du sabbat, à la synagogue. Et ce texte, toujours le même, était relu de sabbat en sabbat, si bien qu'il était gravé dans les mémoires. Si bien que le texte écrit n'était en quelque sorte qu'un aide-mémoire par rapport à la mémoire collective d'Israël. Si le lecteur, quand il lisait le texte, faisait une faute de lecture, toute l'assemblée levait la main en disant non, c'est pas comme ça. Si bien que c'était vraiment dans la mémoire humaine qu'était inscrite l'écriture.
Alors, les premiers livres de l'écriture ont été écrits par Moïse.
Ils ont été écrits par
Et ils
Moïse.
ont été écrits avec l'écriture alphabétique
Oui,
de l'hébreu.
de l'hébreu. Alors, quand est-ce que l'hébreu, qui était probablement écrit en cunéiforme du temps d'Abraham, quand il était en Chaldée. Quand est-ce que l'hébreu a été écrit en écriture alphabétique? Alors là, c'est une source de recherche, de discussion. Mais il y a une thèse qui semble très, très cohérente, c'est qu'au moment où Joseph, le patriarche Joseph, était en Égypte et qu'il est monté sur le trône du pharaon, exactement sur le premier ministre du pharaon, celui qui a organisé en quelque sorte toute l'agriculture et l'irrigation de l'Égypte, en même temps, il a imposé en quelque sorte à son peuple l'écriture alphabétique. Il est probable que l'écriture alphabétique existait déjà en Égypte. Et Joseph a transcrit les livres de la famille dans l'écriture alphabétique. Cette écriture alphabétique existait donc à ce moment-là, déjà. Quand Moïse est arrivé, l'écriture existait. C'est certainement pas Moïse qui a inventé l'écriture.
Donc Moïse, pour écrire
Oui.
les premiers textes
Le premier texte.
qui précèdent sa venue en ce monde,
Et oui, bien
il a
sûr.
donc eu des documents.
Alors, Moïse a eu d'abord des documents qu'on voit très bien dans la Bible. Des documents qu'on a classés en les appelant de différents noms, Éloïste, Yahviste, peu importe. Il avait des documents qui remontaient à des textes antérieurs à lui et qu'il a transcrits dans l'Écriture. Mais il y a aussi dans l'Écriture des textes de Moïse lui-même,
Oui, bah, ce qui est contemporain à
ce qui est
Moïse.
contemporain à Moïse et ce qui vient de ses visions et de ses révélations directes de Dieu sur le Sinaï.
Oui, alors notamment le premier chapitre de la Genèse
Oui.
qui raconte la création.
Oui.
Ce premier chapitre, il n'y avait
Oui.
personne pour être témoin des faits.
Il n'y avait personne pour être témoin des faits. Et effectivement, le premier chapitre de la Genèse est un chapitre très exceptionnel parce qu'il n'y a aucun nom propre. Aucun nom propre et aucune signature. Alors, pourquoi ces 6 jours? Les 6 jours de la création? Eh bien, si on lit dans le livre des Nombres au chapitre 24, on voit, le livre de l'Exode, pardon, au chapitre 24, on voit que Moïse est resté dans la nuée sur le Sinaï pendant 6 jours et 6 nuits,
Avant les 40 jours.
avant les 40 jours où il est resté pour promulguer la loi du peuple d'Israël. Il est resté pendant 6 jours et 6 nuits dans la nuée. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette nuée? Il était en rapport avec Dieu et il est très probable que pendant ces 6 jours, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, que pendant ces 6 jours, Dieu lui a montré dans une vision les grandes aires géologiques
Mais c'est les 6 jours de la vision.
de la vision. C'est les 6 jours de la vision de Moïse, dans lesquels il voit les grandes aires géologiques où Dieu crée successivement, n'est-ce pas, le soleil, la lune, les étoiles,
Oui,
etc., les plantes,
qui
les animaux.
évidemment n'ont pas
On y
duré six
reviendra.
jours.
Ah bien oui, évidemment, en réalité, la création n'a pas duré 6 jours, elle a duré des milliards d'années.
C'est la vision qui a duré
C'est
six
la
jours.
vision qui a duré 6 jours. Il a été transporté en vision pendant les grandes aires de la création,
C'est très
qui
intéressant.
s'est déroulée devant ses yeux comme un film où il a vu les continents se former, où il a vu les plantes pousser du sol, et où il a vu les animaux commencer à courir sur le sol, etc. Tout ce qui a précédé la création de l'homme. On arrive au sixième jour de la création de l'homme.
D'ailleurs, la chronologie qu'on retrouve dans ce premier chapitre de la Genèse,
Oui.
la chronologie correspond bien à ce que les géologues découvrent.
Absolument. Absolument. C'est le résumé des aires géologiques qu'on a explorées dans les sédiments, etc. C'est absolument cohérent. Voilà donc cet hébreu qui nous transmet. Alors, après avoir vu en film en quelque sorte, la création de la terre, d'ailleurs, il faudrait qu'on voit en détail le texte, hein, la création de la terre, à ce moment-là, il y a la création de l'homme. Et après la création de l'homme, il y a un deuxième récit de la création de l'homme, où là, les noms propres arrivent, où on voit à ce moment-là un dialogue entre Dieu et Adam, et par conséquent, il y a quelqu'un qui est témoin, Adam lui-même.
Évidemment.
Qui est témoin de sa propre création, hein, parce qu'il arrive sur la terre, il voit les animaux, il donne des noms aux animaux, et la vie commence, la vie humaine, j'entends, commence à ce moment-là.
Et il transmet la parole que Dieu
Et
lui
il
a dite.
transmet la parole à ses fils, qui vont la transmettre à leurs fils, etc. Donc à partir du chapitre 2 de la Genèse, ce sont les documents que Moïse avait à sa disposition et qu'il a groupés ou résumés dans dans les premiers chapitres de la Genèse, les trois premiers chapitres de la Genèse,
Et ils sont inspirés.
Qui sont les plus importants de l'Écriture. Si nous n'avons pas les trois premiers chapitres de la Genèse, comme nous le disions d'ailleurs précédemment, nous ne comprenons rien à rien de l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine est rattachée à ces trois premiers chapitres de la Genèse.
Et la synagogue a reconnu ces livres de Moïse
oui.
comme authentiques, comme inspirés.
La synagogue a toujours cru fermement à l'authenticité des livres de Moïse. C'est-à-dire que c'est Moïse qui les a écrits, soit lui, soit les scribes qui étaient autour de lui. Il n'est pas dit que Moïse a écrit tous les mots les uns après les autres, mais il avait son groupe de scribes qui écrivaient les livres et qui les recopiaient. De façon que dans chaque tribu d'Israël, il y ait justement des livres. C'est les livres de Moïse, le Pentateuque, les cinq premiers livres de l'Écriture. Alors, l'hébreu est donc la langue inspirée par Dieu. C'est la langue sacrée première. Et cette langue sacrée a un avantage énorme, c'est qu'elle n'évolue plus, elle ne bouge plus. Et que de siècle en siècle, de génération en génération, il y a eu des grammairiens, il y a eu des copistes, il y a eu des massorètes qui se sont donnés pour tâche de copier le texte d'une façon précise, exacte, en comptant toutes les lettres. Et ces vieux textes nous sont arrivés d'une façon impeccable jusqu'à l'imprimerie.
Alors, est-ce qu'on est sûr que vraiment le texte est resté le même au cours des siècles et des millénaires ?
Et des millénaires. Alors, c'est une question très importante. Parce que les textes hébreux étaient considérés comme des textes sacrés. Il y en avait dans chaque synagogue, où ils étaient enfermés dans des rouleaux, dans des boîtes fermées, pour être à l'abri des rats, des parasites, etc., des araignées et tout. Et on déroulait le rouleau pour le lire le sabbat. Ensuite, on le roulait de nouveau. Au tout court du temps, le rouleau finissait, qui était en parchemin, donc en peau de brebis tannée, le rouleau finissait quand même par s'user au bout de plusieurs décades ou plusieurs siècles. Alors il fallait recopier le rouleau. Alors, pour recopier le rouleau, il fallait prendre un soin extrême pour être bien sûr que le texte était identique. Et si le texte n'était pas identique, on s'arrêtait, on recommençait à zéro. Avec un nouveau parchemin tout propre. Jusqu'à ce que le texte soit bien recopié comme il faut. Et quand le texte était bien recopié comme il faut, l'ancien texte, on le brûlait pour qu'il ne soit pas dévoré par les rats, qu'il ne soit pas profané. Si bien que... on n'avait pas de texte ancien de l'hébreu. Parce que les Juifs ont ainsi recopié leur texte jusqu'au XIVe siècle.
Oui, de notre ère. Jusqu'à l'imprimerie.
Et ce sont deux évêques de Burgos, père et fils, juifs, qui s'étaient convertis au christianisme, qui ont entrepris au XVe siècle, sous les injonctions d'Erasme en particulier, j'en parlerai tout à l'heure, qui ont entrepris d'imprimer le texte hébreu de l'Écriture. À ce moment-là, le texte a été imprimé. Et depuis, il n'a pas bougé. Alors, on pouvait faire l'objection. Le texte que nous avons imprimé, qui a été imprimé au XVe siècle, est bien celui qu'on a aujourd'hui, indiscutablement. Mais avant,
oui.
avant, on n'avait pas de texte ancien de l'Écriture. Et il y a eu la découverte des manuscrits de Qumran. Et parmi ces manuscrits, qui remontent à Jésus-Christ, environ, au temps de Jésus-Christ, un peu avant probablement, peut-être deux siècles avant, peut-être contemporain du Christ, on ne peut pas bien dater exactement. Mais parmi ces textes, il y avait un manuscrit complet d'Isaïe, du livre d'Isaïe. Un manuscrit complet qui était fort bien conservé. On l'a trouvé. On l'a déroulé avec la plus grande précaution. On en a pris d'innombrables photographies. On l'a lu. Et on a vu que ce texte ancien d'Isaïe était identique aux variantes orthographiques près. Hein, parce que les mots ont... ont eu une orthographe un petit peu différente, comme en français, et toi au lieu des tels, des machins comme ça.
Oui,
Bon.
l'ancien français, oui.
Ah oui. Alors, aux variantes orthographiques près, les mots sont les mêmes, le même nombre de mots, avec le même sens qu'au XIVe siècle. Ce qui veut dire que pendant 14 siècles, depuis cette époque-là, jusqu'à au XIVe siècle,
Jusqu'à l'imprimerie.
jusqu'à l'imprimerie, eh bien, le texte n'a pas varié.
Oui, c'est formidable. Donc il n'y a pas de raison de croire qu'il est varié avant.
Il n'y a pas de raison de croire qu'il ait varié avant. Alors, dans les Bibles modernes, la Bible de Kittel, qui est la Bible critique de l'hébreu, dans laquelle vous avez toutes les variantes des manuscrits qui sont indiquées au bas des pages, et toutes sortes d'indications particulières qui permettent de suivre l'histoire du texte en quelque sorte, eh bien, dans le texte de Kittel, on a copié au bas des pages les textes de Qumran. Voilà le texte hébreu. Cette vénération de l'hébreu est une garantie que le texte qui a été inspiré par les prophètes, qui a inspiré par Dieu aux prophètes, à Moïse, etc., est bien celui qu'on a aujourd'hui.
Oui. Et comment est-ce qu'on a fait pour reconnaître que c'était bien ces livres-là et pas d'autres, parce que je suppose qu'il peut y en avoir d'autres,
Oui.
qui étaient la parole de Dieu?
Il y avait beaucoup d'autres livres hébreux. Et beaucoup d'autres, et il y en a encore aujourd'hui beaucoup d'autres. C'était la littérature hébraïque dans laquelle il y avait des chansons, dans laquelle il y avait des petites comédies, dans laquelle il y avait des notices historiques, toutes sortes de choses. Toutes ces choses-là au cours des siècles, ont été écrites et ont disparu. On les a pas tous aujourd'hui, mais il y en a quand même beaucoup qui ont subsisté dans le Talmud. Le Talmud, c'est en quelque sorte la mémoire du peuple juif dans laquelle il y a énormément de documents qui ne sont pas traduits et qui ne veulent pas traduire d'ailleurs parce que c'est leur trésor personnel. Ils ont parfaitement le droit. Alors, dans le Talmud, il y a encore beaucoup de choses, mais ce ne sont pas les livres inspirés. Les livres inspirés sont ceux qui ont été désignés comme tels au moment où les sages, où les savants juifs, les saints docteurs de la loi juive, du deuxième siècle avant Jésus-Christ, deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui étaient rassemblés à Alexandrie, dans la grande synagogue d'Alexandrie, qui était beaucoup plus importante que celle de Jérusalem, parce que les Juifs s'étaient déjà répandus dans le monde entier. Alors, dans la grande synagogue d'Alexandrie, ils ont décidé à ce moment-là de faire deux choses. Premièrement, de faire le canon des Écritures, c'est-à-dire les livres considérés comme canoniques, comme vraiment inspirés par Dieu. Et ils ont établi le canon des Écritures, c'est-à-dire le Pentateuque, les livres des prophètes, les livres historiques, les livres des rois, les livres de Samuel, etc., qui racontent l'histoire du peuple juif. Il y a eu des hésitations pour savoir si on mettait le cantique des cantiques au canon des Écritures, texte très ancien, attribué à Salomon, mais qui remonte bien plus ancien que Salomon. Et alors ils ont quand même décidé qu'ils le garderaient dans les Écritures. Ce texte avait un caractère sacré, parce que c'était l'amour de Dieu pour Israël, exprimé dans ce cantique des cantiques. Et ils ont fait le canon des Écritures, et ayant fait le canon des Écritures, ils ont décidé, pour répandre la notion du monothéisme, et pour répandre la révélation mosaïque à travers le monde, ils ont décidé de faire une traduction de l'hébreu au grec. Et ça a été la traduction des Septante. Pourquoi 70? Parce que parmi ces saints docteurs juifs, on en a choisi 70, 70, parmi les plus cultivés, les plus instruits, et ils ont fait une grille
Traduction.
de traduction. Parce qu'il était très difficile pour eux, dans leur mentalité hébraïque, avec cette vieille langue hébraïque, très difficile de trouver les mots grecs qui seraient les plus favorables à la traduction. Ils ont donc fait une grille de traduction en disant, voilà, par exemple le mot Dieu, bon, en hébreu, Yahvé, comment est-ce qu'on va le traduire en grec? Est-ce qu'on va dire Deus? Est-ce qu'on va dire Zeus? Est-ce qu'on va dire Théos? Ils ont choisi un mot. Et puis tous les autres mots importants, pareil. On traduira tel mot hébreu par tel mot grec, de façon à ce que ceux qui connaissent l'hébreu
Et puisse
et
remonter.
qui lisent le grec puissent remonter du grec à l'hébreu.
Oui.
sans hésiter. C'était un travail minutieux, scientifique. Et ayant établi cette grille de traduction pour l'ensemble des mots les plus importants, une centaine peut-être, peut-être davantage, ils se sont mis chacun dans leur petit cabinet particulier et ils ont fait la traduction de tout l'Ancien Testament en grec. Et ensuite, les 70 ont apporté leur traduction et il s'est trouvé que par l'assistance du Saint-Esprit, les textes correspondaient exactement. Les 70 textes étaient d'accord. Bien, ça a été donc la Bible des 70.
En grec.
En grec, que nous avons encore aujourd'hui. Et nous nous apercevons que saint Paul, qui connaissait très bien l'hébreu, dans ses épîtres, il cite les 70. Il cite le texte des 70.
De l'Ancien Testament.
De l'Ancien Testament. Les apôtres connaissaient le texte des 70 aussi bien que le texte grec.
Oui, parce qu'à leur époque, le grec était répandu partout.
Parce que le grec était répandu partout, et le grec étant répandu partout, il suffisait d'avoir les 70, d'avoir la Bible en grec, pour remonter facilement à l'hébreu initial.
Et alors l'Église, ensuite, elle a reconnu ce canon de la synagogue ?
Alors, le canon que la synagogue a établi, qui contient les livres de la Bible d'aujourd'hui. Les apôtres, quand ils ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils ont vu que beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament s'étaient réalisées en Jésus-Christ, bien entendu, ils ont gardé tout le trésor du canon hébreu et de la Bible grecque. L'Église a toujours reconnu le canon des Écritures qui avait été établi par les Juifs. Elle n'a pas ajouté d'autres livres. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que non seulement les livres hébreux ont été admis dans le canon, mais un certain nombre de livres grecs, qui étaient plus tardifs, ont été admis aussi dans le canon des Écritures. En particulier le livre de la Sagesse et le livre des Maccabées. Le livre des Maccabées qui raconte l'histoire du peuple juif pendant les années qui ont suivi Alexandre le Grand, c'est-à-dire les 3 siècles qui ont précédé le Christ. Donc le livre des Maccabées. Il y avait 4 livres des Maccabées et il y en a 2 qui ont été retenus dans l'Écriture. Et dans la Bible des 70.
Par l'Église.
Par l'Église.
Et par les Juifs aussi.
Et par les Juifs aussi. Et dans le livre des 70, on a les 4 livres des Maccabées. Tandis que dans le texte latin, on a gardé que les 2 livres, que 2 livres des Maccabées. Voilà. Donc voici les textes canoniques, les livres canoniques. Et l'Église a toujours gardé ses livres canoniques, et le Concile de Trente, qui a été le dernier grand concile de l'Église.
Au XVIe siècle.
Au XVIe siècle, en 1546. Eh bien, le Concile de Trente a d'abord, avant tout, pour préciser la foi, le premier décret du Concile de Trente, c'est d'établir la liste des livres canoniques.
Alors aussi du Nouveau Testament.
Et du Nouveau Testament, bien sûr.
Mais je pense que les livres canoniques du Nouveau Testament avaient été fixés avant le Concile de Trente.
Ah ben bien sûr, les livres canoniques du Nouveau Testament avaient été fixés dès les Pères d'Église, c'était les premiers temps, dès les premiers conciles. Mais seulement la liste intégrale définitive des livres canoniques a été fixée au Concile de Trente. Il n'y aura plus d'autres livres canoniques que cela.
Il faut mentionner aussi la traduction par saint Jérôme, qui a donné la Vulgate.
Alors, ça, donc, c'est l'écriture écrite dans les langues originales, de l'hébreu pour l'Ancien Testament, et du grec pour quelques livres de l'Ancien Testament, et pour les évangiles et les épîtres. Donc, les langues sacrées sont d'abord l'hébreu et le grec. Et au IIIe siècle, on a commencé à parler latin à la place du grec. Alors, il a fallu faire une traduction du grec ou de l'hébreu au latin. Et il y a eu une première traduction qui a été faite, qui s'est répandue dans l'Église d'une façon un peu désordonnée, on ne sait pas très bien, qui s'appelle la vieille latine. La vieille latine, c'est-à-dire la vieille traduction latine. Cette vieille traduction latine pratiquement a disparu. elle ne subsiste que dans les textes liturgiques. Dans les textes liturgiques, eh bien, on a encore, les textes liturgiques latins, j'entends, on a encore les textes de l'ancienne latine.
Qui est avant Saint Jérôme.
Qui est avant Saint Jérôme. Saint Jérôme qui était fin du 4e, début du 5e siècle, Saint Jérôme, voyant justement que cette vieille latine était disparate, parce que tous les textes n'avaient pas été traduits, on avait traduit les psaumes, on avait traduit certains textes, pas tous. Alors, Saint Jérôme a entrepris de faire une traduction intégrale de l'écriture en latin. Et cette traduction de Saint Jérôme, elle est faite en latin sur l'hébreu, pour tous les livres hébreux, parce que Saint Jérôme connaissait très bien l'hébreu, et elle est faite en latin sur les livres grecs, des 70.
Qu'il connaissait aussi.
Qu'il connaissait aussi très bien. Et cette traduction, on l'a appelée la Vulgate. La Vulgate.
Pourquoi ?
Parce que c'est le livre du peuple.
Ah oui.
Du peuple, Vulgus, le peuple. C'est le livre qui est mis à la disposition de tout le monde. En latin. Cette Vulgate a été, à ce moment-là, le livre universel de l'Église. Sauf de l'Église grecque, qui a gardé, évidemment, ses textes grecs, bien entendu. Mais l'Église latine occidentale, c'est-à-dire l'Italie, la Yougoslavie, qui était très chrétienne à cette époque, Yougoslavie était justement à cheval sur le grec et sur l'hébreu, et sur le latin. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de conciles qui se sont tenus en Yougoslavie, le concile de Sirmium, par exemple, et d'autres, parce qu'on était à la limite de l'Église grecque, latine, et de l'Église grecque et de l'Église latine. Donc c'était très important de se réunir en Yougoslavie, parce qu'on était à cheval sur les deux parties de l'Église. Il faut le savoir. Et alors, donc, l'Espagne, la Gaule, bien entendu, la Grande-Bretagne qui commençait d'être évangélisée à peine, quoi. Mais enfin, c'était le latin.
Et Saint Jérôme, il n'a pas fait ça tout seul, évidemment.
Ben oui, il avait des aides avec lui. Il avait des aides avec lui et des copistes avec lui qui ont copié les textes et puis qui les ont répandus à travers le monde. Voilà. Et alors, Saint Augustin, en Afrique, lisait l'écriture dans le texte latin de Saint Jérôme. Et toute la liturgie latine s'est faite sur le texte latin de Saint Jérôme. Et toute la théologie latine occidentale, oui, c'est fait sur le texte latin de Saint Jérôme.
Alors, est-ce que cette traduction est bonne ?
La traduction de la Vulgate est excellente. Pour la plupart des textes, elle est excellente. Sauf qu'il y a deux ou trois textes qui sont difficiles en latin parce que le latin n'est pas assez, si vous voulez, nuancé pour traduire certaines expressions grecques ou hébraïques. Si bien que le latin est aussi bien traduit que possible. Parce qu'il y a le même nombre de mots en latin qu'en grec et qu'en hébreu. Il n'y a pas un mot de plus, c'est une traduction littérale. Mais le latin n'a pas les nuances de pensée du grec et de l'hébreu. Si bien que, si on veut vraiment saisir le génie de la langue sacrée, aller jusqu'à l'esprit même de la langue, il faut atteindre l'hébreu et le grec.
Oui, qui sont vraiment les langues originales.
Qui sont les langues originales. Alors, les textes grecs de l'Écriture, surtout du Nouveau Testament. Alors, comment avons-nous les textes grecs ? Parce que chez les Hébreux, ils avaient leur massorète. On aura peut-être l'occasion d'expliquer ce que c'était que les massorètes. Hein. C'était des gars qui étaient vraiment spécialisés pour l'Écriture. Des
copistes, vraiment.
Des copistes. Copistes qui copiaient avec une fidélité absolue. Ils copiaient d'ailleurs, non sans avoir fait des ablutions, des prières. Ils se mettaient debout pour copier, pour ne pas s'endormir, attention, debout. Ils se mettaient dans une petite chambre, à l'abri de toute distraction, ils avaient leur modèle devant le nez et ils copiaient le texte. C'est tout. Et cette fidélité a été exemplaire, formidable. On n'avait pas de machine à imprimer, des duplicateurs et des choses comme ça, mais c'était extraordinaire quand même.
Et alors en grec ?
En grec, c'est-à-dire dans les textes qui ont été écrits originellement en grec, dont la langue originale est le grec. C'est-à-dire les évangiles et les épîtres, le Nouveau Testament. Alors là, on n'avait plus les massorettes pour copier. On avait dans les églises simplement des gens instruits qui copiaient les textes. Et les chrétiens, pour avoir les évangiles, ils ne pouvaient pas aller à la librairie acheter l'édition de monsieur un tel, comme aujourd'hui. Ils étaient obligés de copier le texte pour leur usage personnel. Et c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus instruits qu'aujourd'hui. Parce que quand on copie un texte, on l'apprend. On est obligé de le savoir. Tandis que quand on va chercher un livre dans une église, dans une librairie, on le met dans sa poche, après on le met dans sa bibliothèque et on oublie de le lire.
Très juste.
C'est pour ça qu'il faut copier les textes. Aujourd'hui, on donne aux enfants du catéchisme, des gros catéchismes de 400 ou 500 pages, ils sont rigoureusement incapables de les lire, c'est complètement idiot. Il vaudrait mieux leur donner un texte de 40 pages au maximum et de leur faire copier. Et ce serait leur catéchisme personnel qu'ils vont garder pendant toute leur vie, parce qu'ils l'ont copié quand ils étaient petits. Enfin, passons. Alors donc, les évangiles et les épîtres ont été copiés des milliers de fois dans les églises. Des milliers de fois. Peut-être des centaines de milliers de fois. Pour la bonne raison que tout passe en progression géométrique. Et que si un texte est copié deux fois par deux personnes, ensuite ces deux personnes le donnent à deux autres personnes qu'ils copient, les autres les donnent à quatre personnes qu'ils copient, et très rapidement le texte envahit tout.
Bien sûr.
Bien entendu. Et alors, on avait donc de nombreux manuscrits anciens des Écritures.
Oui.
De nombreux manuscrits. Jusqu'au XIVe siècle, tous les évangiles, toutes les épîtres, tout le Nouveau Testament et d'innombrables textes des pères étaient tous dans des manuscrits. Quand l'imprimerie est arrivée, que faire? Quel texte allons-nous choisir? Parce qu'il y avait des variantes entre tous ces textes. C'est impossible que tous les gens aient copié rigoureusement à la lettre près des textes qu'ils gardaient pour eux-mêmes ou qui étaient pour l'Église. Alors il y avait quand même les grands manuscrits liturgiques. Qui étaient ceux dont on se servait pour la messe, l'évangéliaire, le livre des épîtres. Alors ces livres-là, évidemment, sont des livres très précieux, qui étaient copiés avec le plus grand soin, avec de l'encre bien noire, sur des parchemins bien épais, et puis avec des enluminures, avec des images. C'était le livre sacré par excellence. Et on a encore de ces textes-là. Il y a plusieurs manuscrits, au moins une bonne dizaine de manuscrits du 4e, 5e siècle, qu'on a encore des évangiles, des épîtres de l'Apocalypse. Il y a le Sinaiticus, il y a le Vaticanus, ils ont chacun leur nom, il y en a un à Londres, il y en a un à Moatos, on en a trouvé plusieurs, etc., qui sont des manuscrits très précieux. Bon, et qui sont en quelque sorte les plus importants, si on peut dire, parce que la liturgie les a gardés. Alors, dans ces textes grecs, on avait en outre beaucoup de alors, le premier qui a voulu imprimer ces textes, c'est Erasme,
au XVIe siècle,
qui s'est fait amener les manuscrits qu'on avait encore à Londres, qu'on avait à Paris, qu'on avait à Rome, et alors il a consulté tous ces manuscrits et il a écrit un texte grec des évangiles. C'est l'édition grecque d'Erasme, qui est d'ailleurs très belle, avec des belles lettres bien dessinées et tout. Et il a écrit le texte grec, imprimé, ça y est, c'est fini.
Il a choisi un texte.
Alors. Il a choisi un texte parmi les manuscrits qu'il avait. Il a pris le texte qui lui semblait le meilleur. Tout. Voilà. C'est le travail d'Erasme.
Et puis il a mis les variantes en notes des autres textes.
C'était déjà un texte critique. Il y avait les variantes en notes. Voilà. Et ce texte grec des évangiles a été la base ensuite de toutes les autres éditions qui ont été faites, bien entendu. Et alors, dans les temps modernes, c'est-à-dire au XIXe siècle, on a refait un travail formidable sur les manuscrits, qui a été fait par des bénédictins, par différents auteurs, quoi. Il y avait Merck, il y avait Nestlé, etc. Je ne me rappelle plus tous les noms de ces gens qui ont travaillé, et qui ont ramassé tous les vieux manuscrits, qui étaient tombés sous la poussière, qui étaient moitié dévorés par les rats ou les araignées, peu importe. On a tâché de collationner tous ces manuscrits et on en a fait une nomenclature telle qu'on a dit tel manuscrit est antérieur à celui-ci, parce que le papier est différent, parce que l'encre est différente, etc. Telle manière, etc. Et on a retenu 6000 manuscrits antérieurs au XIe siècle.
C'est beaucoup.
Et ces manuscrits, considérés comme des manuscrits sérieux, on les a classés de telle manière qu'on a vu quels étaient les plus anciens, les plus sûrs, pour établir ce qu'on appelle un texte critique. On a établi des textes critiques, c'est-à-dire des textes où l'auteur qui a fait ce travail, a retenu un texte qui lui semble le plus sûr, le plus proche de l'original possible, et il met en note dessous les variantes qu'il y a dans les autres manuscrits. Si bien que le lecteur, en lisant le texte, peut consulter aussi les variantes. Et ces éditions critiques sont extrêmement précieuses, oui. Parce qu'elles nous permettent de toucher le texte original le plus sûr possible.
Et est-ce que les variantes sont importantes, changent le texte?
Alors, ce qu'il y a de très remarquable, c'est que parmi ces 6000 manuscrits, il y a environ 100 000 variantes. Ce qui est énorme.
Oui.
Mais ces variantes sont des variantes secondaires. C'est-à-dire, c'est un mot qui a été oublié, ou c'est un mot qui a été placé en avant d'un autre, ou bien c'est une faute d'orthographe, ou bien c'est une lettre qui a été écrite à la place d'une autre, etc. Ou le type s'est trompé de ligne, il a sauté une ligne. Mais ces 100 000 variantes, il n'y en a aucune pour les manuscrits grecs, hein, j'entends. Hein. Il n'y en a aucune qui soit substantielle, c'est-à-dire qui change le sens d'une phrase.
Oui,
et alors, en faisant ce grand travail d'exploration sur les manuscrits, on s'est aperçu d'une chose très intéressante, c'est qu'il y a trois grandes familles de manuscrits. Il y a la famille de la koiné, qu'on appelle. C'est-à-dire les manuscrits qui nous sont arrivés par les missions de Saint Paul en Galatie, par la Grèce, par la Yougoslavie et par la voie terrestre jusqu'en Gaule. Sur tout cet itinéraire, il y a des manuscrits qui ont été ramassés et qui sont les manuscrits qui ont été copiés à Antioche, la ville d'Antioche, la chaire de Saint-Pierre à Antioche.
Antioche de Syrie.
De Syrie. Et c'est là qu'il y avait une école théologique et une école de scribes, dont il est question dans les Actes des Apôtres. Là où il y a eu le concile, après le concile de Jérusalem, c'est là qu'il y a eu l'église d'Antioche qui a été le point de départ de l'évangélisation dans le monde. Alors, cette église d'Antioche a envoyé ses manuscrits en Europe, par en haut. Il y a une deuxième famille de manuscrits qui est venue par en bas, depuis Alexandrie. Le premier évêque d'Alexandrie, ça a été Saint Marc. Et à Saint Marc, il y avait la grande synagogue d'Alexandrie, où beaucoup de juifs se sont convertis au christianisme. Et autour de Saint Marc, il s'est créé une école
de scribes.
Et les manuscrits ont passé d'Alexandrie en Libye, en Algérie actuelle,
l'Afrique du Nord,
en Espagne, et reviennent en Espagne. C'est la deuxième grande famille de manuscrits. Et il y a des textes qui sont allés jusqu'à Londres et qui sont les représentants de cette famille. Le fameux Codex Bèze, par exemple, c'est-à-dire le texte dont se servait Bèze, le successeur de Calvin, pour lire l'Évangile. Bon, Codex Bèze. Et alors, il y a une troisième famille de manuscrits qui est la famille Lucienne, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Lucius qui était à, comment ça s'appelle, le port de Palestine.
César
de Palestine. C'est là qu'il y avait aussi une école de scribes dont il est question dans les Actes des Apôtres, avec les noms d'ailleurs des principaux maîtres de cette époque. Et ça, c'est les marins. Les marins qui traversaient la Méditerranée et qui emportaient les manuscrits et qui distribuaient les manuscrits dans les ports. Et cette troisième famille de manuscrits est arrivée un peu dans le monde entier. On suit, par conséquent, les trois grandes familles de manuscrits du Nouveau Testament. Et en plus de ces manuscrits, il y a les papyrus.
Ah oui, je pensais.
Qui est une chose extrêmement importante et qui ont été découvertes dans les fouilles archéologiques qu'on a faites en Égypte, dans les tombes d'Égypte, dans les tombes là-bas du Moyen-Orient. On fouille une tombe, c'est un chrétien qui a été enseveli là, deuxième siècle, troisième siècle, avant même, premier siècle, et il a sur sa poitrine, il a un texte de l'Évangile.
C'est vraiment les plus anciens.
Qu'il a voulu emporter dans sa tombe.
Oui.
Et on trouve un papyrus, ce qu'on appelait un papyrus. Et grâce à la sécheresse de ces pays-là, eh bien le texte est conservé. Alors en général, les papyrus, ce sont des extraits de textes. sont pas un évangile tout entier. Mais c'est extrêmement important parce que ce sont des textes très anciens,
oui, voilà,
qui peuvent remonter au premier siècle. Oui. Et à ce moment-là, on voit effectivement
qu'ils sont conformes
et qu'ils précisent certaines variantes. Ainsi, certaines variantes de l'évangile grec ont été précisées par des papyrus. Voilà. Et on a dit, voilà, le vrai texte, c'est celui-là.
Oui.
Et ce travail a été fait donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et c'est un travail scientifique merveilleux, merveilleux, qui nous montre que la tradition manuscrite est la chose la plus sérieuse du monde.
Les textes vraiment originaux, c'est-à-dire les... Comment est-ce qu'on dit, les manuscrits?
Les manuscrits originaux. Oui.
Eh bien, c'est-à-dire ceux des quatre évangélistes, et puis ensuite Saint Paul, enfin les quelques épîtres que nous avons.
Oui.
Ces textes-là, les premiers, on n'en a aucun.
Aucun. On a des textes authentiques. On dit qu'un texte est authentique lorsqu'on peut être sûr que c'est vraiment le texte tel qu'il a été écrit et copié, et que la copie a été fidèle. On peut être sûr que, parmi ces 6000 manuscrits qui ont été retenus, hein, il y en a au moins 200 ou 300 qui nous donnent le texte authentique. Authentique. Hein. C'est-à-dire, on peut être sûr que c'est vraiment le texte qui a été écrit. Mais il n'est pas signé de l'auteur. Quand c'est l'auteur, que c'est vraiment l'auteur du texte, qui a écrit le texte.
Oui, c'est-à-dire sa propre écriture.
À le moment, c'est le texte original, avec sa propre écriture. Alors là, on n'a aucun texte original de l'écriture.
Et ce petit fragment qu'on a trouvé, soi-disant, à Qumran, je crois.
Oui, à Qumran, on a trouvé un fragment.
D'un évangile de Marc.
D'un évangile de Marc, oui, 50 après Jésus-Christ, oui, exactement.
Et il était contemporain du Christ,
contemporain.
Ce petit fragment.
Il est contemporain des apôtres, il est daté de 50 après Jésus-Christ.
Oui, alors comme
c'est-à-dire
Christ...
au moment où les évangiles ont été écrits.
Oui, voilà.
Parce que quand les évangiles ont-ils été écrits? Ils ont été écrits tout de suite.
Ah ben oui, ça c'est encore une question.
C'est une question, mais c'est une question qu'il faut résoudre d'abord, premièrement, par la tradition de l'Église qui nous a toujours dit dans la liturgie, évangile de Saint-Luc, évangile de Saint-Marc, évangile de Saint-Jean, évangile de Saint-Matthieu. Elle n'a jamais eu aucune hésitation pour dire que l'évangile de Saint-Matthieu, c'est Matthieu qui l'a écrit. Or, si c'est Matthieu qui l'a écrit, il l'a écrit de son vivant, bien entendu. Hein? Donc, nous avons la tradition liturgique de l'Église qui n'a jamais manqué là-dessus, jamais. Bon. Tous les plus anciens auteurs, tous les pères les plus anciens, citent Matthieu, citent Luc, citent Marc, etc. Et ne mettent pas en doute que c'est l'évangile de Marc est bien écrit par Marc, pas de problème. Bon, donc, et deuxièmement, il faut savoir comment les évangiles ont été écrits. Le premier évangile, comme le dit saint Irénée. Le premier évangile, c'est saint Matthieu qui l'a écrit, et qui l'a écrit en hébreu, pour persuader la synagogue. Qu'est-ce qui s'est produit? Pendant les 10 jours qui ont suivi l'ascension du Christ jusqu'à la Pentecôte, les apôtres étaient réunis dans le Cénacle. À l'ascension, le Christ leur a dit, vous irez prêcher dans le monde entier tout ce que je vous ai dit. Donc les apôtres, pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont joué aux cartes pour passer leur temps? De quoi est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont rassemblé leurs souvenirs. Et ils ont dit, voilà ce qu'il faut dire. Voilà quel va être le texte à partir duquel nous aurons le témoignage du Christ. Alors, ils ont rassemblé leurs souvenirs et ils ont fait une espèce d'évangile oral. Voilà, qui serait la base de la catéchèse, en quelque sorte, qui serait la base de la prédication, de ce qu'ils allaient annoncer. Et Matthieu, qui était scribe, et qui avait l'habitude des textes et des papiers, eh bien, il a écrit. Et il a écrit son évangile. Il l'a écrit en hébreu, de façon que, puisque le Christ avait dit, vous commencez par Jérusalem, la Samarie et toutes les nations. Il fallait donc d'abord convertir Jérusalem. Or, pour convertir Jérusalem, c'est-à-dire pour convertir la synagogue, il fallait parler en hébreu. C'était la langue sacrée.
Hébreu ou araméen?
Hébreu. Irénée dit hébreu.
Ah bon.
Bon. maintenant, l'hébreu et l'araméen sont très voisins l'un
de l'autre. Oui, bien sûr.
Bon. Alors, il a donc écrit son premier évangile en hébreu. Et tout de suite, il a été traduit en grec, bien entendu. Ça a été le point de départ de l'évangile. Voilà, c'est tout de suite. Et puis ensuite, lorsque Saint Pierre, Saint Jean et les apôtres ont été obligés de quitter Jérusalem après la persécution qui a suivi la mort d'Étienne, c'est-à-dire vers les années 37, 38, 40, par là.
C'est ça.
Là, ils ont été obligés de quitter Jérusalem. Saint Irénée s'est dit, c'est l'exode. Alors, au moment de leur exode de Jérusalem, Marc a écrit un évangile qui allait être mis dans la poche des chrétiens qui s'en allaient pour qu'ils aillent porter cet évangile en Samarie et plus loin.
Donc en grec cette fois.
Alors en grec. Marc a écrit son évangile à ce moment-là. C'est le deuxième évangile. Et le troisième évangile, il a été écrit au moment où Saint Paul est parti en mission, ayant reçu l'imposition des mains avec la conversion de Saint Paul, etc. Il a reçu l'imposition des mains. Avant cette imposition des mains, il est allé pendant 3 ans en Arabie pour méditer sur ce qui lui était arrivé, parce que quand il avait vu le Christ dans la gloire, ça l'a obligé à changer de mentalité complètement. Donc il a fait une retraite de 3 ans. Et après, il est revenu à Antioche, et c'est là qu'il a été envoyé en mission. Et là, Saint Luc a écrit le troisième évangile pour informer tous les Grecs, en grec, dans un style qui correspond mieux à la mentalité grecque qu'à la mentalité juive. Et Luc, pour écrire son texte, il a consulté des témoins oculaires, auriculaires, il le dit dans son prologue, et il avait bien entendu sous les yeux l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, c'est évident. Et alors, il a écrit un texte qui était son texte personnel, mais qui rapportait les mêmes événements, puis quelques autres en plus, bien sûr. Voilà les évangiles. Et ensuite, et d'ailleurs, on sait très bien que Luc a écrit son évangile très tôt, puisque Saint Paul le dit dans la deuxième aux Corinthiens, et qu'il dit, je vous envoie Luc, hein, mon compagnon de voyage, dont l'évangile est vanté par toutes les églises. Toutes les églises font la louange de l'évangile de Luc. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on copiait l'évangile 2 par 2, 3 par 3, et puis finalement l'évangile se répandait très rapidement sous forme de manuscrit, et l'évangile de Luc était déjà répandu dans toutes les églises au moment de la deuxième aux Corinthiens. Alors, la deuxième aux Corinthiens, on la date au plus tard en 54. Donc ce qui veut dire que l'évangile de Luc était écrit en l'an 54, c'était bon.
Oui, oui.
Et puis c'est tout, il n'y a rien à dire, d'autre. Oui.
Ça fait peu de temps après le Christ.
Mais bien entendu. Quand Saint Démètre est venu ici à Gap en l'an 80 avant Jésus, après Jésus-Christ, il avait tous les évangiles et toutes les épîtres de Saint Paul dans ses poches.
Et alors Saint Jean, lui, c'est plus tardif alors.
Alors Saint Jean, lui, a écrit son évangile toujours au témoignage de Saint Irénée. Hein. Bon, il a écrit son évangile plus tardivement quand il a vu que déjà dans l'Église se répandaient des négations par rapport à Jésus-Christ.
Des hérésies.
Et alors, Jean a refait une rédaction de l'évangile, lui, témoin oculaire, auriculaire, bien entendu, il le dit, quand il rapporte justement la croix de notre Seigneur et qu'il raconte que le soldat est venu à transpercer le Christ de la lance, il dit, moi j'ai vu, celui qui écrit ces choses les a vues. Il était là, témoin. Il a écrit son évangile pour rappeler aux chrétiens que le Christ était vraiment homme et vraiment Dieu.
Oui, il insiste beaucoup sur ça.
Il insiste beaucoup sur l'humanité et la divinité du Christ. C'est déjà un évangile théologique, plus orienté vers la théologie que vers simplement le récit des faits. Alors, Jean a écrit son évangile probablement aux environs des années 80, 90, quelque chose comme ça. Difficile à dater. Il était probablement déjà à Éphèse avec la Vierge Marie à ce moment-là. Donc il a interrogé la Vierge Marie qui a dû lui dire des choses extrêmement importantes, notamment qu'elle était au pied de la croix, il le raconte. Notamment qu'elle était aux noces de Cana, il le raconte, c'est dans l'évangile de Jean. Et alors l'évangile de Jean, on se pose beaucoup de questions, parce qu'il y a des fragments de l'évangile de Jean qui ont certainement disparu. Mais enfin, on va en parler en particulier sur l'évangile de Jean. N'importe comment, ce qui nous reste de l'évangile de Jean est suffisant pour qu'on puisse être persuadé de l'historicité du Christ et de la divinité du Christ. Voilà comment les évangiles nous sont arrivés.
Mais je suis sûr qu'au cours de l'histoire, il n'y a aucun livre profane qui ait eu autant de manuscrits.
Ah, bien sûr. Aucun livre profane. Par exemple, les livres de Tacite, pour n'en citer qu'un.
Oui.
Les livres de Tacite, l'histoire de Tacite. Bon, c'est un livre qui raconte l'histoire des empereurs romains. Le but de Tacite, c'était de raconter l'histoire des empereurs romains, c'est tout. Et de raconter leur turpitude, surtout. Bon, eh bien, il y a un manuscrit de Tacite du XIVe siècle, c'est tout, un.
C'est-à-dire celui qui a été imprimé.
Ah, c'est sur celui-là, sur ce manuscrit, qu'on a fait l'impression de Tacite.
Et on n'a pas d'autre.
Non.
C'est
même, alors que pour les évangiles...
6000 manuscrits.
6000 manuscrits avant le XIe siècle. Autre exemple, par exemple, le texte de Saint Jean Chrysostome sur la virginité. Saint Jean Chrysostome a écrit un traité de la virginité. Bon, bien. C'est un gros livre. Eh bien, ce livre, traité de la virginité, il y a un manuscrit du 8e siècle.
Eh oui, bien sûr.
Et puis ensuite, d'autres manuscrits plus tardifs, mais du 8e siècle.
Oui, oui.
Tandis que les papyrus de l'Évangile sont du 1er siècle.
Oui. Et même si on prend, par exemple, les pièces de théâtre des Grecs,
oui.
Hein, comme, je ne sais pas, Xénophon ou...
Eh bien,
je suis sûr qu'on n'a pas beaucoup de manuscrits anciens.
On a très peu de manuscrits
de ces pièces.
Très peu de manuscrits. Les manuscrits presque sont tous perdus aujourd'hui. Pythagore, par exemple, on n'a aucun manuscrit de Pythagore. Aucun texte de Pythagore sur ses théorèmes de géométrie. On a les odes de Pythagore, mais on n'a plus les manuscrits aujourd'hui, c'est fini.
Et par exemple, la guerre des Gaules de César, on ne doit pas avoir beaucoup de manuscrits non plus.
Non, la guerre des Gaules de César, on a quelques manuscrits du 10e, 9e, 10e siècle, quelque chose comme ça. C'est des manuscrits d'ailleurs qui ont été recopiés dans les abbayes. C'est les moines qui nous ont copié ces manuscrits. C'est les moines qui nous ont sauvé non seulement les textes sacrés, mais les textes profanes de l'histoire.
Oui, tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit justement que ça dépend beaucoup des abbayes et des moines, cette copie des manuscrits.
Mais cette copie des manuscrits, bien entendu. C'est les moines qui avaient, en quelque sorte, pour leur propre usage, ils avaient besoin de textes. Et ces textes, ils les copiaient.
Oui, ils
avaient... Pour les garder dans leur bibliothèque.
Ils avaient quand même l'équivalent des massorètes. Hein.
Ils avaient à peu près l'équivalent des massorètes, oui.
Et depuis très tôt, ça.
Depuis très tôt, oui, tout de suite.
Dès qu'on a eu, je ne sais pas, les bénédictins,
oui.
les...
Ah, oui. Mais les pères du désert avaient leurs manuscrits. Les pères du désert du 3e, 4e siècle, ils avaient leurs manuscrits. Toutes les histoires des pères du désert nous ont été transmises par des textes authentiques de l'époque. Saint Athanase, on a un certain nombre de textes Saint Athanase, il faudrait que je puisse étudier les manuscrits de Saint Athanase, mais je ne l'ai pas étudié. Mais Saint Athanase, qui était du 3e siècle, eh bien, ces manuscrits ont été copiés très tôt et par les moines orientaux et occidentaux. Et encore au Mont Athos aujourd'hui, au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï, ils ont encore des manuscrits qu'ils gardent jalousement et sur lesquels personne n'a pu mettre le nez encore. Ils gardent leurs vieux manuscrits. Et justement, à Sainte-Catherine, ils avaient prêté un manuscrit à un chercheur au début du siècle, et le chercheur est parti avec, et il ne leur a pas rendu. Alors maintenant, ils sont drôlement prudents. Hein. Oui. Donc le trésor de l'Église, il a été gardé par des gens pieux, intelligents, et qui ont été très attentifs à garder le trésor de la tradition manuscrite. Donc la tradition de la vérité.
Oui.
Et ça, il faut le savoir.
Oui, je pense qu'ils étaient tout autant attentifs que les anciens juifs. Hein.
Ils étaient tout autant. Ils n'avaient pas les mêmes méthodes rigoureuses, mais ils étaient tout aussi attentifs. Oui. Donc on peut être sûr d'une chose, c'est que la Sainte Écriture nous est arrivée par des textes authentiques. Authentiques. Voilà.
Donc les langues dites sacrées... sont l'hébreu, le grec et aussi le latin.
Alors le latin n'est pas une langue sacrée au sens que ce n'est pas la langue dans laquelle les auteurs inspirés par le Saint-Esprit ont écrit. Voilà. Les langues sacrées au sens strict du mot, c'est-à-dire les langues dont se servaient Les auteurs de la Sainte Écriture, c'est l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Mais le latin a eu un usage universel, au moins dans l'Église latine, pour l'enseignement, pour la liturgie et
Oui.
pour la prédication.
Oui.
Pendant toute l'Antiquité, depuis le 3e siècle, à peu près 3e, 4e siècle, jusqu'à la Renaissance, et même après, jusqu'au 18e siècle, c'est le latin qui a été la langue scientifique, non seulement de la foi, mais de la science.
Oui, bien sûr.
Kepler a écrit ses livres en latin, Newton a écrit ses livres en latin. Et encore après la Révolution, on écrivait encore des livres scientifiques en latin, des livres de mathématiques, Descartes a écrit des livres en latin.
C'était la langue de l'Europe.
C'était la langue de l'Europe. Gassendi a écrit tous ses livres en latin.
Oui, bien
Ils sont
sûr.
tous en latin. Donc le latin a eu une importance considérable pour transmettre la vérité. Et à ce titre, on peut le considérer comme une langue sacrée, parce que ça a été la langue de la liturgie de l'Église, de l'office divin,
Oui, bien sûr.
et ça a été la langue des conciles,
Voilà, des définitions de
des
foi.
définitions de la foi.
C'est très
Les
important.
définitions de la foi sont en grec pour les anciens conciles, en latin depuis le 4e siècle. Donc, de ce point de vue-là, le latin est d'une importance extrême, et on l'a toujours su. C'est pour ça qu'Érasme a été l'initiateur de ce qu'on a appelé le trivium, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux étudiants, à tous les hommes qui veulent être cultivés, il faut leur apprendre les trois langues, l'hébreu, le grec et le latin. D'ailleurs, l'hébreu a toujours été su dans l'Église latine, par des maîtres, par des savants. Le grec a toujours été su aussi dans l'Église latine, par des maîtres et des savants, même si la langue parlée, c'était le latin. Et le désastre de nos temps modernes, c'est que le latin n'est plus la langue universelle. Depuis la Révolution française, le latin n'est plus la langue universelle. Jusqu'à la Révolution française, n'importe quel chrétien qui savait le latin pouvait s'exprimer et se faire comprendre dans toute l'Europe. Et c'était bon.
Oui. Et le latin est nécessairement une langue sacrée, puisque le Saint-Esprit s'est exprimé en latin dans la définition de la foi,
Dans les définitions de la foi.
dans ce travail qu'a fait l'Église de préciser la foi au cours des âges, selon d'ailleurs l'ordre du Seigneur,
Oui.
le Seigneur qui disait à ses apôtres, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours des temps,
Oui.
eh bien, l'Église serait assistée par l'Esprit Saint pour comprendre la foi.
Exactement. Et le latin a été cultivé dans l'Église. Et le meilleur latin qu'on trouve, ce n'est pas le latin des auteurs anciens de Cicéron, c'est pas vrai. C'est le latin de Saint Léon. On n'a pas écrit mieux le latin que Saint Léon. Le pape Saint Léon le Grand. Et ensuite, le latin a été évidemment lu et compris dans d'innombrables pièces latines. Voltaire a écrit des vers latins. Lamartine a écrit des vers latins. Donc, le latin est la langue véhiculaire de la vérité pour tout le temps du Nouveau Testament, jusqu'à nos
Aussi
jours.
bien que le grec et que l'hébreu.
Aussi bien que le grec et l'hébreu. Si bien que ces trois langues, hébreu, grec et latin, ont un avantage énorme. C'est que c'est des langues qui n'évoluent pas et que par conséquent, au cours des siècles, le sens n'en a pas changé.